Depuis quand l'Égypte fascine-t-elle? Dès l'Empire romain avec Cléopâtre et le culte d'Isis, ou le Moyen-Âge qui collectait des momies, la Renaissance et les temps modernes, puis contemporains, avec l'expédition de Bonaparte. Qu'en est-il d'ailleurs aujourd'hui, puisque la grande civilisation pharaonique, sortie de nulle part, est chantée par Hayam et Akhenaton, Rihanna ou Beyoncé? Pourquoi cet engouement tout à la fois millénaire et planétaire? Parce qu'il s'agit d'une civilisation insurpassée, modèle et matrice de toutes les autres. Parce que les Égyptiens auraient découvert l'Amérique, pleinement contribué aux pyramides mayas, parce que les pyramides de l'Empire de Kouch étaient des centrales électriques, rien de moins. Pour analyser les ressorts de ce mythe égyptien, ce que l'on appelle l'égyptomanie, comme les idéologies sous-jacentes, j'ai rencontré Jean-Loïc Lecalec, directeur de recherche émérite au CNRS, tout à la fois archéologue, anthropologue et mythologue. Celui-ci s'est penché sur cette fascination de l'Égypte au travers d'un livre, « Nos ancêtres pharaons, 5 siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne » qui vient tout juste de paraître aux éditions du Détour. L'égyptomanie est une passion dévorante, irrésistible pour le lointain passé de l'Égypte. Pour autant, l'Égypte pharaonique n'est-elle pas pour certains, 4 mères de Quincy en tête, un insurmontable âge d'or?
Oui, lui c'était un architecte donc qui a écrit un livre sur l'architecture égyptienne. Mais la thèse qu'il défend, c'est que l'architecture égyptienne était un sommet de l'art de l'architecture. Et ce sommet n'a jamais été dépassé. Non seulement il n'a pas été dépassé, mais ensuite il a été, disons, copié par les Grecs, puis eux-mêmes les Grecs ont été copiés par les Romains, et puis ensuite copiés par d'autres. Et en fait, c'est une des premières occurrences de cette idée que, depuis la grandeur égyptienne, tout n'était que décadence.
Alors, si l'Égypte est un âge d'or, cela implique forcément qu'il y a eu un déclin des civilisations et de l'humanité.
C'est ça, c'est un évolutionnisme à l'envers, c'est un mythe du progrès inversé, en fait, on peut dire, hein, puisque selon les époques, au moment où on parle de là, par exemple au XVIIe siècle, ou même encore un peu avant, tout commence avec l'Égypte, et l'Égypte est un sommet indépassable. Ensuite, il y a une évolution des cultures, des civilisations, mais c'est une décadence continue. Les cultures qui vont succéder à l'Égypte lui empruntent tout, d'aucuns diront même lui volent. Peu à peu, la grandeur égyptienne elle-même est quelque peu oubliée, mais elle ne sera jamais remplacée par d'autres grandeurs équivalentes. Ça, c'est la théorie évolutionniste, disons, qui est défendue par tous les auteurs et qui ont défendu cette idée d'une origine égyptienne de la civilisation.
Il y a tout juste un an, Maître Gims commentait l'histoire de l'Empire de Kouch. Voilà ce qui pourrait surprendre, bien sûr, plus d'un. Mais le cœur du sujet résidait dans l'évocation de ces pyramides. Jean-Loïc Lecalec, on l'écoute.
L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque, de l'Empire de Kouch, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire, elle a commencé sur un négrier, on apprend à ramer en sueur. Non!
Revenons sur l'électricité triphasée, comme les faces, bien sûr, visibles d'une pyramide. Maître Gims reprend ici ce que l'on trouve aisément sur le web.
Oui, quand j'ai entendu ça, comme tout le monde, je me suis dit « Non, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'il raconte ?» Il est complètement cinglé, c'est pas possible. Et ensuite, je me suis ravisé, parce que tout le monde, le pauvre, il a été victime d'une campagne de ricanement généralisé, il a été méprisé et vraiment moqué unanimement. Et moi, je me suis dit « Mais en fait, d'où ça vient ce discours? Est-ce que c'est bien lui qui a inventé cette histoire ?» Parce qu'il développe un petit peu, hein, il ne parle pas que de l'électricité des pyramides. Il a un discours autour de l'Égypte antique, disons, voilà. Et c'est un peu le départ de ce livre où je me suis dit, enquêtons, renseignons-nous, voyons voir d'où vient cette histoire. certes, d'électricité, des pyramides comme espèce d'engin que les Égyptiens auraient inventé pour fabriquer l'électricité, pour s'éclairer dans leurs tunnels, bon, mais aussi tout ce qui se raconte autour des pyramides comme symbole d'une très haute technicité des Égyptiens antiques qui maintenant auraient disparu. Je me suis rendu très vite compte que, par exemple, quelqu'un comme Elena Blavatsky, dans un livre qui s'appelle Isis dévoilée, qui est paru quand même en 1877, disait la même chose. Et donc, très vite, dès qu'on regarde, on s'aperçoit que Gims n'a pas inventé ce discours, il l'a simplement adapté à nos jours. Lui, il est rappeur, il n'est pas égyptologue, et donc il a repris un discours qui est assez commun, en fait. L'idée, c'est de dire, ça a été repris mille et une fois, hein, de dire « Ah, mais les archéologues n'ont jamais retrouvé de lampes. On ne connaît pas de lampes en Égypte antique. Donc, ils avaient des tunnels. Comment ils faisaient pour s'éclairer dans les tunnels ? Il fallait bien qu'ils s'éclairent. Et donc, avec des miroirs. Bah oui, mais ils ne connaissaient pas les miroirs, vraiment. Donc, comment ils ont bien pu ? Bah, ils avaient l'électricité, tout simplement. Ils avaient des ampoules. Et des gens ont même été jusqu'à croire, reconnaître des représentations de générateurs électriques et d'ampoules électriques avec les filaments, etc., sur certaines fresques, notamment de tombes d'Hathor, voilà. Et ce discours ancien perdure jusqu'à nos jours. Mais c'est un discours qui est très mal informé, en réalité, parce que, c'est pareil, dès qu'on fait une petite recherche, même sans être égyptologue et très spécialiste de ces questions, on s'aperçoit que, par exemple, il y a des gens qui ont consacrer des thèses à l'éclairage en Égypte ancienne. Les Égyptiens anciens avaient des lampes. Alors, évidemment, pas des lampes électriques, hein, mais des lampes, voilà, à huile. Et certaines étaient très perfectionnées. On en a trouvé des magnifiques, par exemple, dans la tombe de Toutankhamon.
Alors, bien sûr, ce commentaire a suscité le rire de l'ethnologue chez les chercheurs. Il ne devrait probablement pas, d'ailleurs.
Oui, alors, la première tendance, souvent, des archéologues, quand ils ont affaire à des thèses de ce genre qui paraissent complètement farfelues, c'est de rigoler, de ricaner, de dire « Non, mais vraiment, là, c'est n'importe quoi, quoi. » Et dans un second moment, de dire « Oui, mais c'est pas possible, parce qu'on sait très bien que... » et commencer à argumenter. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure réaction à avoir, parce que ces thèses, si elles paraissent rigolotes en apparence, si elles paraissent témoigner d'une insondable ignorance aux yeux des archéologues qui, eux, savent ce qu'il en est de l'Antiquité, en réalité, ces thèses sont peut-être pas si rigolotes que ça, et peut-être qu'on aurait tout intérêt à les prendre au sérieux parce qu'elles nous disent quelque chose d'autre que ce qu'elles ont l'air de déclarer.
Alors l'archéologie est bien sûr une discipline longue et fastidieuse qui collecte et catalogue les faits matériels. Pour vous, Jean-Loïc Lequellec, l'archéologie fantastique des mondes cachés serait une archéologie romantique. Qu'entendez-vous par là ?
C'est une archéologie, je dirais, qui s'encombre pas d'archéologie, qui s'encombre pas de fouilles, qui s'encombre pas d'érudition, qui s'encombre pas de lecture. Le seul but, c'est de présenter une espèce de mythologie contemporaine, de présenter un récit grandiose, un récit qui fait rêver et qui a très rapidement tendance à dire « Ah, ce que font les archéologues, c'est sans doute très bien, mais les pauvres, ils sont englués dans le détail des choses et en fait, ils perdent de vue la grandeur du grand récit de la vraie histoire que moi, je vais vous raconter. » Et plein de séries, de faux documentaires, et même de revues qu'on trouve dans les kiosques sont basées sur cette idée romantique au sens où on présente quelque chose de grandiose, qui fait rêver toutes les personnes qui sont intéressées par l'archéologie, et il y en a beaucoup, hein, mais qui n'y connaissent pas grand-chose.
Est-ce que c'est pas de la mythologie ?
Alors moi, je considère effectivement que c'est de la mythologie. Le discours des archéologues romantiques, c'est pas un discours d'archéologue, en réalité. C'est un discours qui éclaire le monde, qui donne du sens au monde, en utilisant par-ci par-là des éléments empruntés aux archéologues qui font état de certaines découvertes uniquement dans la mesure où elles vont permettre d'illustrer le grand récit tenu par ces archéologues romantiques. Ce grand récit n'est rien d'autre qu'un mythe contemporain.
Vous savez que vos propos déclenchent la grêle et peut-être bien sûr les éclairs juste à l'extérieur. En tout cas, peut-on opposer aux propos bien sûr de Maître Gims un ahurissant discours, celui de Nicolas Sarkozy, qui en 2007 à Dakar évoque « l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ».
Je me suis dit ça en écoutant Maître Gims. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit exactement, outre l'histoire des pyramides, de l'électricité des pyramides ? Il termine son discours en disant, mais l'Afrique, c'est le futur. C'est Wakanda chez nous. Alors chez nous, ça veut dire l'Afrique dans sa bouche. Hein. C'est le futur. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est exactement le symétrique inverse du discours de Sarkozy du, je sais plus, c'était le 26 juillet 2007, grande date de l'histoire de France, et où lui nous disait que, au contraire, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, que l'homme africain est englué dans le passé et ne se projette pas dans le futur. Et là, c'est exactement l'inverse. Alors je me suis dit, finalement, Gims répond à ce type de propos. Il y a quand même encore aujourd'hui, malheureusement, dans l'air, une idée qui continue de flotter parfois, qui nous dit que quand même, l'Afrique, c'est un monde quand même qui est un peu englué dans le passé. Voilà. Et pour moi, le discours de Gims était une réponse indirecte à celui de Nicolas Sarkozy.
Bien sûr, le discours de Nicolas Sarkozy, c'est le déni d'historicité de l'Afrique.
Bien sûr, l'Afrique sans histoire, toutes ces cultures à histoire froide, hein, qui évoluent très lentement, tellement lentement que rien ne bouge, voilà. Et puis il y aurait des cultures chaudes qui évoluent très vite et qui bougent tout le temps, voilà.
Le rap et le hip-hop sont friands de cette Égypte modèle de toute culture africaine. D'ailleurs, certains Afro-Américains se considèrent comme les descendants directs d'un ancien peuple d'Égypte.
Les rappeurs souvent mobilisent des symboles égyptiens, empruntent même des pseudonymes qui sont pris à l'Égypte, par exemple Akhenaton, qui est un des plus connus, hein, mais Imhotep, il y en a beaucoup qui ont pris des noms empruntés à l'Égypte ancienne et qui portent en pendentif la croix en C ou des symboles empruntés à l'Égypte ancienne. Et je me suis dit, mais d'où ça vient, toutes ces histoires? Je me suis aperçu qu'il y a une ancienne mythologie qui remonte aux années 30, par exemple, avec Nation of Islam, le mouvement, où on a un mythe, par exemple, qui nous explique qu'il y a des... Alors, je crois que c'est 66 000 millions d'années. Il y avait plusieurs tribus, il y avait 6 grandes tribus qui peuplaient le globe, qu'il y a eu un savant fou qui a tout fait exploser, et une seule tribu, qui est la tribu des Shabazz, a survécu. Cette tribu des Shabazz s'est réfugiée en Égypte, et ce sont les ancêtres des Égyptiens, et ce sont les ancêtres des Noirs. Voilà. Et donc, ils sont à l'origine de toutes les civilisations qui ont suivi. Et je me suis aperçu que ce discours est tellement vivant qu'il y a des rappeurs qui ont pris comme pseudonyme Shabazz, ou des paroles de rap qui évoquent ce mythe de Shabazz. C'est toujours très vivant.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Puisque nous évoquons l'Amérique, peut-être faut-il aussi évoquer le kémitisme, cette religion née aux États-Unis dans les années 70 et s'inspirant de la religion égyptienne antique.
Oui, c'est ça, c'est des gens qui ont pensé renouer avec l'ancienne civilisation égyptienne. Ça s'appelle kémitisme parce que c'est une allusion à un mot égyptien, en fait, antique, hein, qui est le mot kémet, qui désigne l'Égypte. C'est un mot qui veut dire... littéralement, hein, si je peux dire, qui veut dire noir, qui connote la noirceur. Et donc, ça, cette idée a été mobilisée par tous les tenants de ce discours qui consiste à dire les anciens Égyptiens étaient des noirs. Alors, en réalité, Kemet, ça connote bien la noirceur, mais c'est pas la noirceur de peau des gens, ça désigne pas une population noire, ça désigne la terre noire. L'Égypte, c'est la terre noire, au sens de la terre fertile, par opposition à la terre infertile qui entour de chaque côté les étendues désertiques au-delà de la vallée du Nil. Et donc ces gens ont reconstitué une civilisation égyptienne en la remodernisant et en pratiquant une néo-religion, comme il y a des néo-païens. Hein, et ben de même, il y a des néo-adeptes des religions antiques égyptiennes qui s'appellent eux-mêmes les kémites ou les kémitistes.
Il existe aussi une école de mystique ancienne kémitologue dont l'approche métaphysique a pour but de comprendre les secrets ésotériques du symbolisme. Qu'en savez-vous, Jean-Luc Lekelec ?
Alors c'est très étonnant parce qu'ils ont une position pré-champollionesque. En réalité, puisque avant que Champollion n'intervienne, on avait des monuments égyptiens sur lesquels on voit des images très énigmatiques, en réalité. Et ces images sont entourées de ce que nous savons maintenant être des textes, donc des hiéroglyphes, des images parlantes, en fait. Et on s'est longtemps interrogé sur la signification de ces images, et on a pensé que si les anciens Égyptiens supposaient être un parangon de civilisation extrêmement avancée, à la fois moralement et scientifiquement, avaient orné leurs monuments avec des images incompréhensible, c'est qu'ils voulaient cacher leur savoir. Leur savoir devait rester sacré. C'était des arcanes, il fallait être initié. Il y a tout ce courant ésotérique qui est né, qui s'est particulièrement développé au XVIIIe siècle, hein, et qui a continué de se développer. On a toujours pensé qu'il y avait des secrets de l'Égypte ancienne et qu'il fallait essayer de les déchiffrer. Des tas de gens, notamment le père Athanase Kircher, qui ont fait des énormes livres pour déchiffrer les secrets de l'Égypte ancienne. Et quand on les lit maintenant, on s'aperçoit que c'est simplement une projection de leurs propres fantasmes, de leurs propres idées sur ces images. Quand Champollion est arrivé, évidemment, d'un seul coup, presque tout s'éclaire. C'est-à-dire, on sait lire, c'est complètement différent. Et ces images commencent à parler. Et du coup, les prétendus mystères de l'Égypte ancienne s'évaporent. Mais il reste encore des gens qui sont persuadés qu'il existerait des mystères de l'Égypte ancienne, des arcanes à déchiffrer. Et ces gens-là ne savent pas lire les hiéroglyphes, très généralement, et donc croire déchiffrer des mystères qui, en réalité, n'existent pas.
Pourquoi les Nubiens et le royaume de Kouch sont-ils si souvent mobilisés ? Il nous faut peut-être alors revenir à une théorie majeure, celle de Cheranta Diop et de son livre « Nations nègres et culture de l'Antiquité ».
Oui, alors c'est une très vieille histoire, parce que c'est une histoire qui vient de la Bible en réalité, puisque les Kouchites tirent leur nom de Kouch, qui est un des petits-fils de Noé. Alors Noé a eu trois fils, il y a Sem qui est l'ancêtre des Sémites, il y a Ham qui est l'ancêtre des Hamites, et il y a Cam qui est l'ancêtre des Camites, et lui-même a eu un fils qui est Kouch, qui est l'ancêtre des Kouchites, et donc des Nubiens. Et cette généalogie qui donne l'ethnogénèse du monde, hein, c'est une mythologie, qui un mythe ethnogonique en réalité, ça a été repris notamment au XIXe siècle par tous les abolitionnistes nord-américains, qui très souvent étaient des pasteurs, qui militaient pour l'abolition de l'esclavage et qui militaient pour la libération des Noirs, et qui militaient avec les moyens qu'ils avaient. Et les moyens qu'ils avaient, eux, c'était des érudits, des exégètes de la Bible. Et donc, ils ont pris les textes bibliques et ils ont popularisé ce grand récit disant que l'Égypte, mère de toutes les civilisations, était née du groupe des Kouchites. Les Égyptiens noirs auraient eu comme ancêtre Kouch, lui-même petit-fils de Noé. Et ce mythe perdure jusqu'à nos jours, notamment, plus ou moins, par le biais de Cheranta Diop, qui, en 1954, a publié ce livre, qui a fait l'effet d'une bombe, quand même, où il expose aussi que les anciens Égyptiens étaient des Noirs et qu'ils sont à l'origine de toute la civilisation parce que les Grecs leur ont tout pris. L'héritage égyptien a été volé par les Grecs, Socrate, etc., tous ces grands noms. Ils n'ont rien inventé, ce ne sont que des voleurs. Et ensuite, d'autres civilisations sont venues et ont tout pris aux Grecs. Et finalement, si on retourne à l'origine, selon ce discours, eh bien, tout vient des pharaons noirs, de l'Égypte noire antique. Ce discours a été repris, bien entendu, par tous les Noirs qui veulent contrer les anciens discours coloniaux et les discours qui, encore actuellement, considèrent qu'il n'est jamais rien sorti d'intéressant de l'Afrique.
Ce qui est intéressant, c'est que Cheranta Diop réutilise quelque chose qui nous vient de la littérature anglo-américaine, mais qui n'avait pas été du tout perçu dans le milieu francophone.
Alors c'est très étonnant parce que déjà dans le milieu francophone, Cheranta Diop, alors qu'a été considéré et qui est toujours considéré par plein de gens comme un grand précurseur, hein, comme celui qui a redonné la fierté noire, notamment grâce à ses pharaons noirs et à cette ancestralité qui remontrait à l'Égypte. En fait, c'est un très vieux discours parce que déjà en 1912, ce discours est construit par Diop et par d'autres pour, je cite ces auteurs, pour contrer le discours des missionnaires. Des missionnaires blancs, bien entendu, hein, qui sont venus en Afrique. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est un discours qui a été tenu pour la première fois par des missionnaires blancs. Notamment, par exemple, le père Trille, c'est un des premiers à dire « Ah, mais l'Égypte ancienne, c'est elle qui a influencé toute l'Afrique, les langues africaines découlent de l'Égyptien ancien, toutes les thèses que défend ensuite Cheranta Diop ». On a une linguiste qui était professeure à l'école pratique des hautes études, qui s'appelle Lilia Somburger, qui toute sa vie a défendu des thèses du même type.
Oui, 1928, elle défend donc déjà l'unité des langues africaines dont l'égyptien constituerait un état ancien.
C'est ça. L'égyptien ancien, pour elle, c'était l'ancêtre de toutes les langues africaines. Elle était quand même professeure de linguistique à l'école des hautes études. Il faut savoir quand même que Lilias Hamburger a eu comme élève des égyptologues, a eu comme élève Cédar Sangor, a eu comme élève des gens qui ont influencé Cheronta Diop. Mais Cheronta Diop, en fait, et les autres auteurs de cette lignée, ensuite, ont complètement oublié cette origine, peut-être parce que c'était une origine qui va dans le mauvais sens de leur point de vue, puisque c'est une origine, ben, Lilias Hamburger, elle était missionnaire. Et donc, c'est un peu gênant de dire on va lutter contre les thèses racistes des missionnaires en inversant leur discours, et puis de s'apercevoir qu'en fait, l'inversion de ce discours, elle existait déjà dans la bouche des mêmes missionnaires.
Partons bien sûr aussi hors d'Afrique. Les Égyptiens, comme je l'évoquais au début de l'émission, ont-ils conquis l'Amérique? Oui, notamment dans le Grand Canyon, dans l'Arizona.
Alors vous avez des gens qui, encore aujourd'hui, prétendent que les Égyptiens, qui étaient des très grands navigateurs, alors on connaît des bateaux archéologiquement, on les connaît sur des fresques, etc., très grands navigateurs, donc ont navigué dans le monde entier, ils ont été jusqu'en Australie, ils ont découvert l'Amérique longtemps avec Christophe Colomb, ils se sont établis en Amérique, ils ont laissé des traces là-bas qu'on peut documenter, voilà. Et il y a pléthore de documentations, d'auteurs qui prétendent avoir découvert, par exemple, des ouscheptis, les ouscheptis, ces petites statuettes qui sont laissées dans les tombes égyptiennes, qui auraient été découvertes en Amérique. Alors évidemment, si vraiment des ouscheptis avaient été découverts en Amérique, en fouille, hein, et bien datés dans un milieu archéologiquement assuré, disons, ce serait quelque chose de très, 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 très révolutionnaire. Enfin, ce serait vraiment très étonnant. Le problème, c'est que tous les ouscheptis qui ont été exhibés de la sorte, c'est des faux qui étaient vendus comme souvenirs au Caire depuis qu'il y a des touristes pour visiter les pyramides.
On parle aussi de grottes avec des hiéroglyphes et des momies.
Dans le Grand Canyon, il y a quelqu'un qui a publié un article disant que un géologue, par hasard, a trouvé une grotte et il a exploré cette grotte. Et là, dans cette grotte, incroyable, il y avait des momies, il y avait des hiéroglyphes et il décrit quelque chose qui ressemble tout à fait à des grandes tombes égyptiennes. Et cette histoire, elle a pris, beaucoup de gens l'ont répétée, la répètent encore. Vous avez, alors c'est facile de trouver des sites internet ou même des revues qui reprennent cette histoire en y croyant dur comme fer, en expliquant que oui, alors la Smithsonian Institution, parce que là-dedans ça a été expertisé, nous dit-on, par un archéologue de la Smithsonian Institution, mais celui-ci a disparu. Les textes d'expertise ont disparu aussi, mais c'est bien parce que c'est trop gênant comme découverte et on nous la cache, bien entendu. En réalité, on a fait l'enquête et on s'est aperçu que cette histoire vient d'un ferblantier qui s'appelait John Mulaton, qui avait comme habitude d'envoyer aux journaux des fausses nouvelles. Mais pour rigoler, c'était juste pour voir si les journaux allaient le publier. Et donc, en dépouillant les journaux de l'époque, on s'est aperçu que le même qui avait signé le premier article en a signé une quantité d'autres, avec des quantités de découvertes toutes plus incroyables les unes que les autres. C'est toujours des grottes. Il raconte même que dans une des grottes, il y a une pyramide, tout simplement. Et lui, son plaisir, c'était de faire des farces aux journaux et aux journalistes. C'est devenu tellement légendaire que, comme il s'appelait Mulaton, quand quelqu'un racontait une histoire quand même un peu trop grosse pour être vraie, la réponse traditionnelle, c'est de dire oh, « it looks like a Mulaton story ». Ça ressemble à une histoire de Mulaton.
On pourrait aussi évoquer, bien sûr, les falsifications de l'État euro-américain cachant l'histoire des fondateurs noirs des civilisations Olmec et Maya. Les pyramides en témoignent, d'ailleurs. Nous pourrions aussi, par exemple, évoquer le boomerang australien présent dans la tombe de Toutankhamon.
Alors, les boomerangs, évidemment, il y a cette idée répandue qui synonymise, grosso modo, boomerang et Australie. Un boomerang ne peut être que australien. Alors, si on trouve des boomerangs en Égypte, c'est bien la preuve que les Égyptiens anciens les ont rapportés d'Australie. Ils n'ont pas pu inventer quelque chose qui est typiquement australien. Alors ça, c'est un argument qui a eu son heure de gloire et qui continue d'être propagé par tout un tas d'auteurs qui ignorent malheureusement que le plus ancien boomerang a été trouvé en Pologne et qu'il a 23 000 ans, il est en ivoire, qu'on connaît parfaitement bien documenté par des fouilles des boomerangs gaulois. Donc personne n'a jamais prétendu que les Gaulois avaient exploré l'Australie quand même. On en a trouvé deux en Normandie, on en a trouvé en Hollande, on en a trouvé en Allemagne, on en a trouvé... En fait, on a trouvé des boomerangs. Le problème de l'histoire du boomerang, archéologiquement, c'est que comme c'est un objet en bois, il est souvent très mal documenté, il se conserve pas bien, et donc c'est un peu miraculeux qu'on découvre des boomerangs. Mais on en a trouvé plein, finalement, qui montrent que mais c'est pas du tout un objet spécifiquement australien. Alors les boomerangs qui figuraient dans la tombe de Toutankhamon, en fait, ce n'est que quelques-uns parmi tous les boomerangs qui sont attestés en Afrique, en Europe, en Inde, en Amérique et aussi en Australie.
Jean-Luc Le Callec, ne serions-nous pas sur une mythologie, celle qui évoque que toutes les cultures du monde sont héritières de l'Afrique et de, bien sûr, de l'Égypte civilisatrice? En quelque sorte, nous serions tous des Égyptiens qui s'ignorent.
Oui, c'est pour ça que j'ai intitulé le livre « Nos ancêtres les pharaons ». C'est évidemment un clin d'œil par rapport à nos ancêtres les Gaulois, bien entendu. Il y a cette idée qui est proprement mythologique de dire que voilà, l'Égypte est la grande institutrice de toutes les civilisations et que toutes les cultures, quelles qu'elles soient, descendent d'une façon ou d'une autre de l'Égypte antique.
Jean-Luc Le Callec, votre conclusion est des plus troublantes. Où l'on retrouve dans un inventaire à la Prévert l'ésotériste Roger Guénon, le suprémaciste noir Kémi Saba, le célèbre négationniste Robert Forisson, un kémitiste, quelques groupes anti-vax, la Côte d'Ivoire, le Mali et Richard Wagner.
Oui, c'est pour ça que, en fait, cette histoire n'est pas si rigolote et que ces récits, ces mythes contemporains autour de l'Égypte ancienne ne sont pas forcément matière à rigolade. Derrière, il y a autre chose qui est quand même beaucoup plus inquiétant. Beaucoup des gens qui propagent ces histoires-là sont des gens de bonne foi, qui y croient, comme Maître Gims, par exemple, voilà, bon. Mais il y a aussi des gens qui racontent ces histoires en version suprémaciste blanc. Et par exemple, l'un des plus prolifiques propagateur de cette histoire, c'est quelqu'un qui s'appelle Frank Joseph, qui dirige un journal en Amérique qui s'appelle Ancient American, et l'Amérique ancienne, qui défend la thèse d'un peuplement de l'Égypte ancienne de l'Amérique, et des Égyptiens anciens qui auraient laissé plein d'éléments culturels, donc les Ptolémées et bien d'autres, en Amérique. Mais bien entendu, lui, ce qu'il considère, c'est que ces Égyptiens anciens étaient blancs, et que c'est eux qui ont apporté la culture aux sauvages qui vivaient en Amérique, c'est-à-dire les Amérindiens, que d'autres tiennent le même discours en disant « ce sont aussi les Égyptiens blancs qui ont apporté la culture partout ». Et il faut savoir que Frank Joseph, qui est l'un des initiateurs de cette thèse, Frank Joseph, c'est tout simplement le fondateur du parti nazi américain.
Le musicien Richard Wagner, le Mali, c'est bien sûr le groupe Wagner.
Voilà, Richard Wagner, évidemment, n'est pour rien dans l'histoire. Je ne sais pas s'il s'intéressait vraiment à l'égyptologie et aux pyramides, mais Wagner, le groupe Wagner, le fameux groupe Wagner, qui s'est implanté au Mali, a emprunté son nom en hommage à Wagner. Et le suprémaciste noir Kémi Saba, il est prouvé qu'il a collaboré très fortement avec le groupe Wagner. Et autant, je viens de dire qu'il y a une mythologie en clé blanche de nos ancêtres pharaons, de nos ancêtres égyptiens, il y a le même discours inversé. Nos ancêtres pharaons qui ont peuplé le monde, qui ont apporté la culture et les civilisations partout, étaient noirs. D'aucuns disent c'était des blancs, d'autres disent c'était des noirs. Ces deux discours sont symétriques l'un de l'autre. C'est le même mythe qui est mobilisé par des gens qui sont diamétralement opposés, que tout oppose, c'est-à-dire des suprémacistes blancs et des suprémacistes noirs. Et évidemment, entre les deux, il y a beaucoup de gens qui sont de bonne foi, qui ne connaissent rien, qui ne voient pas ce qu'il y a derrière la fascination pour l'Égypte pour faire avancer tout autre chose d'extrêmement dangereux. C'est un mythe contemporain dans ce sens-là aussi.
Vous êtes ce soir sur le lieu à la fois le plus fantastique et le plus illustre du monde. Ce plateau de Gizeh, où se dresse à jamais le plus haut témoignage des hommes.
Jean-Luc Le Callec, je rappelle le titre de votre livre, « Nos ancêtres pharaons, 5 siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne », qui vient tout juste de paraître aux éditions du Détour. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadja, à la technique Valentin Bobinet, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.